Bonsoir. Je suppose que vous êtes peut-être fatigué d'une journée ici ou au travail. Je vais essayer d'être simple et laisser une dizaine de minutes pour un échange en fin de parcours avec vous. Alors, on pourrait aussi intituler ce dont je vais parler l'enfant qui amène ses parents chez un psy. Et c'est très fréquent, en fin de compte. On a toujours l'habitude de voir des parents emmener leur enfant chez un psy. Il arrive très souvent que, de façon subtile et bien évidemment inconsciente, l'enfant parvient, par des détours, des contours, une certaine pensée qu'il a, à faire appel autour de lui, aussi bien dans le milieu scolaire, une maîtresse, une directrice d'école, dans des activités qu'il a à l'extérieur, éventuellement un parent, un parrain, qui pourrait amener, en fin de compte, les parents à s'interroger et à les consulter. Et il arrive très souvent, dans ma pratique en libéral ou en hôpital, de voir que l'enfant s'éclipse presque naturellement au bout de la première séance de consultation, et les parents restent, par contre. Alors, je ne nie pas qu'il y a énormément de consultations, évidemment, dont les enfants pourraient bénéficier. Je vais citer les jalousies qui sont très invalidantes, des phobies, toutes les questions des troubles sphinctériens, les questions du trouble alimentaire, ne parlons même pas des troubles de la personnalité, bien évidemment, pour lesquels un psychologue a un véritable travail à effectuer avec l'enfant directement, et très souvent avec les parents aussi. Mais là, ce soir, je suis en train de parler d'un constat que peut-être certains psychologues d'enfants ici présents pourront me renvoyer ou éventuellement discuter. Une sorte, j'ai toujours l'habitude d'utiliser cette expression, vue du 17e étage, lorsqu'on repère un peu l'histoire du monde de la consultation, on se rend compte que nous sommes, nous, psychologues, psychanalystes, débordés de consultations. Je ne peux pas dire inutiles, elles sont toujours utiles. À partir du moment où un parent, un enfant se pose des questions, ça vaut la peine de se déplacer, de voir. Mais on ne peut pas prétendre qu'au-delà de la première et parfois unique consultation, l'enfant mériterait de revenir, les parents mériteraient de revenir. Très souvent, si on est honnête dans son travail, il est simplement question de réassurer les parents et de leur demander de supporter les difficultés que l'enfant présente. Par exemple, les jalousies entre frères et sœurs, les petites peurs nocturnes. Parce qu'on en viendrait, en fin de compte, à un monde éducatif où, en définitive, tout devrait être parfait, tout devrait être idéalisé, et à partir du moment où l'enfant est idéalisé comme ne devant plus avoir de problème, l'implication, c'est que le parent lui-même est un parent idéal. Or, on le sait d'avance, a priori, et on le pose comme postulat, il n'y a pas d'enfant idéal, il n'y a pas de parent idéal. Les erreurs sont intrinsèques à notre façon d'éduquer. Il faut simplement renvoyer ça de façon naturelle aux parents pour les rassurer. Et c'est un peu tout ce travail-là qui consiste à ne pas dramatiser une consultation, ne pas sauter sur cette proie qu'est un enfant, justement parce que c'est un enfant, parce que c'est encore de la pâte à modeler, on va dire, hein. Et que ne pas faciliter non plus la consultation à outrance, ce qui voudrait dire qu'à chaque fois qu'il y a un petit quelque chose, ben, on devrait aller consulter. Voilà. Alors, ce que je constate aussi, c'est que sur une vingtaine d'années, une cinquantaine d'années peut-être, il y a des liens qui se sont distendus dans les familles, à l'intérieur même des familles, je veux dire des petites familles nucléaires, hein, le père, la mère, les enfants. Du fait des recompositions, et du coup, l'autre parent ne vient pas aider le conjoint dans l'éducation. Les propres parents qui sont devenus des grands-parents ne servent plus de conseillers. Les voisins, les parrains, j'aime bien cette fonction de parrain au-delà de l'aspect religieux dont on n'a pas à tenir compte. Un parrain peut très bien être un adulte du même âge que les parents, qui vient aider à certains moments un enfant, et on n'a pas besoin de nomination officielle pour estimer qu'un tel ou un tel peut faire office de parrain. Un oncle, un grand cousin, peut tout à fait faire office de parrain pour un enfant, une sorte de tuteur, quelqu'un à qui on va aller dire des secrets qu'on ne dira pas à papa et maman, par exemple. Bref, je fais allusion à cette question qui devient de plus en plus difficile pour certains parents, qui consiste à aller s'épancher, émettre un doute, demander un conseil. Ça se fait de moins en moins. Je parle de son entourage proche. Et du coup, on a recours un peu plus facilement à cette confidentialité, ce secret qu'on peut trouver dans un cabinet de psy. Alors, si on entre dans le vif du sujet, il y a des questions qui reviennent de plus en plus, et heureusement ou malheureusement, l'actualité nous les fait vivre de façon beaucoup plus intense. La question de l'autorité, par exemple. La question de l'autorité pour laquelle beaucoup de parents viennent consulter sans imaginer un seul instant qu'il s'agit de ça. C'est-à-dire, mon enfant est agité, je n'arrive pas à le cadrer, en classe il est intenable, etc. Toutes ces assertions comme intenables, insupportables, et qui sont très importantes et qui me font, justement, j'ai envie de réintituler cette conférence, l'enfant qui amène ses parents chez le psychologue. J'arrive parfois, il faut le faire avec délicatesse pour ne pas gêner, ne pas blesser, surtout en présence de l'enfant, on le verra. J'arrive très souvent à reformuler la plainte des parents. Par exemple, il est intenable, il est insupportable. Alors j'essaye d'exprimer le fait que madame ne supporte pas cet enfant. C'est différent. C'est-à-dire, vous ne le supportez pas. Et non pas, l'enfant est insupportable. Comme lorsqu'on dirait nous-mêmes à nos propres enfants, tu es bête, parce qu'il a fait une bêtise. Au lieu de dire, tu as fait une bêtise, ou ce que tu as fait est bête. Parce qu'évidemment, on colle une étiquette de la sorte qui fait que l'enfant serait pour lui-même quelqu'un d'insupportable. Non, maman ne le supporte pas, ou papa ne le supporte pas, ou la maîtresse n'en vient pas à bout. C'est déjà différent. On nomme le sujet. Le sujet, ce n'est pas l'enfant. C'est le parent ou l'adulte qui ne supporte pas l'enfant. Et du coup, là, il trouve en moi, ou dans le psy qui le reçoit, un allié, pas forcément avec une complicité, au contraire, il faut rester quand même du côté de l'adulte qui écoute. On repositionne le conflit autrement. Et du coup, on sert de tiers. On sert de tiers dans ce dialogue difficile, puisque justement, un parent vient nous voir, c'est que justement, il y a difficulté de dialogue. Donc la question de l'autorité, j'ai constaté au cours des années que beaucoup de parents, de jeunes parents, avaient énormément de mal à poser l'autorité, à s'autoriser à être autoritaire. Et les enfants attendent cette autorité. Je veux dire, si elle vient faire défaut, cette autorité éducative, alors l'enfant a tout à fait raison d'amener les parents chez un psychologue. Donc, en fin de compte, toute la question de savoir dire non, énormément de livres écrits là-dessus, apprendre à dire non, qui est très difficile pour certains parents, je ne veux pas généraliser, certains parents ont beaucoup de mal à dire non. Et quand on les y autorise nous-mêmes, du coup, ça devient beaucoup plus facile et ça calme un peu les choses. Je veux dire, on n'est pas un mauvais parent lorsqu'on dit non à un enfant. Du moins, je l'espère. Il y a également des parents qui ont souffert de l'autorité de leurs propres parents et qui ne veulent surtout pas reproduire. On connaît un petit peu tout ça. On évite de reproduire ce dont on a souffert. Mais qui, du coup, à l'excès, ne vont plus du tout faire preuve d'autorité. Et je pense aussi à une autre autorité à laquelle on ne pense pas trop, qui est celle, par exemple, de préserver l'intimité du couple. Il y a un moment dans la soirée où les enfants sont au lit, quoi. Voilà. Et tout simplement pour pouvoir souffler, pouvoir se rappeler qu'on est un couple, pouvoir se rappeler qu'on est des adultes autrement que des parents. Et par exemple, lorsque je demande si la porte de la chambre est fermée, on répond souvent que non, parce qu'il faut rester disponible. Voilà. Et cette disponibilité, je trouve que c'est quelque chose d'assez exagéré aujourd'hui, c'est-à-dire que l'enfant devient, dans certaines familles, roi, tout lui est dû, au même titre que ces parents-là idéalisent l'enfant, c'est-à-dire tout devra aller au mieux. Je me rappelle d'un ouvrage d'un journaliste très connu, François de Closet, qui avait intitulé son livre « Toujours plus », il y a une quinzaine d'années. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, ce n'est plus toujours plus qu'on veut. Évidemment, on veut tous plus. Plus de bonheur, plus de sérénité, plus de santé, toujours plus, bien sûr. Mais un peu, je vais parodier les enfants dans leur langage d'aujourd'hui, moi je dirais toujours trop. Vous savez, comme les enfants qui disent « Ah oui, c'était trop bien ». Bon, trop. Maintenant, on en arrive au trop. Et je redoute, dans l'histoire des mentalités, je redoute toujours les trop, les excès. Parce que une histoire, l'histoire d'un pays, l'histoire de l'Occident, qui serait marquée par un excès, ramènerait ou amènerait forcément un jour l'autre excès. Et on le voit aujourd'hui avec des problèmes d'actualité assez chauds dans les écoles et autres sur le problème des excès qui nous ramènent à d'autres excès. Vous voyez à quoi je fais allusion. Voilà, donc des parents qui voudraient toujours le mieux pour leur enfant, ben, bravo, c'est vrai qu'on le voudrait, mais on ne peut pas tout le temps prétendre au mieux, au plus, au trop. Des parents aussi qui, est-ce qu'on peut leur jeter la pierre, verraient d'emblée leur enfant, alors qu'il a 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans, vient d'entrer à peine en CP, CE1, et qui le voit déjà, comme dans la chanson de Charles Aznavour, en haut de l'affiche. Alors, ce n'est pas président, premier ministre, mais dans des familles où un destin est forcément posé d'emblée, je dirais même avant la conception de l'enfant, et où il est impensable, mais sans l'avoir dit, c'est-à-dire que c'est dans la mentalité de la famille, c'est dans le mythe familial qui traverse les générations, où forcément, c'est un Dupont, c'est un Durand, c'est un Martin, il va forcément être quelqu'un. Ce qui pèse sur les épaules de cet enfant, et qui ne peut pas être dit, puisque les parents ne le prononcent même pas, tu seras un tel ou un tel. Ça se sent, c'est vécu. Le poids qui repose sur les épaules d'un enfant, qui n'a pas forcément la capacité, qui ne se voit pas pour l'instant, du haut de ses 6-7 ans, arriver aux aspirations des parents, est un poids qui va se ressentir à un certain moment. C'est-à-dire que ça va se surajouter à toute la charge scolaire, la charge qui consiste à supporter des frères, des sœurs qui seraient jaloux, la charge d'avoir un rang dans une bande de copains, de camarades, la charge aussi qui va se peser sur ses épaules d'un excès d'activité extrascolaire. On sait qu'il y a des enfants qui, au-delà de l'école, ont beaucoup d'activités, beaucoup. Pourquoi ? Parce que ça va rentrer justement dans ce que j'appelle « tu seras quelqu'un, mon fils, un jour ». Alors évidemment qu'on aimerait bien que son enfant devienne quelqu'un, bien sûr. Mais c'est dans l'excès que je suis en train d'affiner ce sujet. C'est-à-dire que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, bien évidemment qu'on veut le mieux de notre enfant. C'est dans le trop que ça va transparaître. Et l'enfant sait très bien, comme un foie, je parle de l'organe, hein, comme un foie, c'est retenir ou relâcher l'excédent qui lui a été imposé, l'enfant va relâcher à ce moment-là la charge, tout ce qui est attendu, et va se mettre à avoir des symptômes. Alors parmi les symptômes, il peut y en avoir des sérieux et des moins sérieux. Parmi les moins sérieux, ça va être une certaine agitation, un enfant qui aurait des tics. Et on sait très bien qu'aux alentours de 7, 8, 9, 10, 11 ans, beaucoup, beaucoup d'enfants, 80% des enfants, traversent une période où ils ont des tics. Les garçons, principalement à table, sur leur table de travail, vont bougeoter, vont s'activer, vont pas tenir en place, très fréquent. Le nombre de petites manifestations, telles que je viens de les donner, j'en aurai d'autres qui me viendront à l'esprit, ou peut-être vous-même, vous me les donnerez, et qui sont simplement des résidus de tension, d'excès, que les enfants ne peuvent supporter et qui sont obligés de sortir. Voilà. Dans une journée, on pense bien qu'il y a énormément de frustrations, énormément d'inhibitions qui sont imposées aux enfants, et c'est normal. Je veux dire, on ne traverse pas n'importe où, on essaye de se tenir en classe, etc. Bon, on ne prend pas le pain au chocolat qui est posé, on demande et on paye avant chez la boulangère. Enfin, je veux dire, ce sont des évidences qui font qu'aujourd'hui, on est amené à dire non très souvent à un enfant, et les réactions face à l'inhibition, face à la frustration, ces réactions vont souvent faire que les parents ne supportent pas. Les parents ne supportant pas, on a la solution. J'ai entendu parler d'un psychologue, j'ai entendu parler d'une psy à tel endroit. On va y aller, on va prendre rendez-vous. Souvent, ce sont les femmes et les mamans qui le font. Parfois, les pères, ça arrive. Il y a également, je passe très rapidement là-dessus, aussi la mauvaise compréhension de certains ouvrages, de certaines œuvres. Je pense à Françoise Dolto, qui a énormément fait pour les enfants. Et ces ouvrages ayant été quelquefois mal compris, on tombe dans des excès pas possibles. Je pense à une patiente qui m'a amené son fils pour un trouble sphinctérien, l'encoprésie, c'est-à-dire la difficulté à se retenir, c'est plus seulement pipi, c'est plus solide, hein. Encoprésie à l'âge de 6 ans. Bon, faut-il rappeler que la propreté est plus ou moins acquise aux alentours de 3 ans. À partir de 4 ans, ça commence à être problématique pour un enfant. Donc là, elle avait 6 ans, cette petite, et sa mère disait en toute bonne foi, et pourtant j'ai fait tout ce qu'il faut, j'ai lu Dolto comme il faut. Il ne fallait pas inhiber cet enfant, je l'ai laissé faire là où elle voulait. La laissant faire sans le pot, au début. Pourquoi ? Parce qu'il ne fallait pas inhiber un enfant. Ça vous paraît peut-être absurde, mais ça arrive. Ça arrive qu'il y ait des compréhensions complètement dévoyées de choses très simples. Et à mon sens, Françoise Dolto n'a jamais dû dire qu'on peut laisser un enfant faire ses petites crottes n'importe où dans la maison. Voilà. Alors évidemment, quand on laisse le problème, du moins le souci, parce qu'il faut aussi faire attention à ces mots un peu faciles comme problème. J'aime bien réutiliser les mots simples, un souci, c'est tout, un souci d'éducation. Voilà. Quand le souci, qui ensuite est devenu un problème, hein, à l'âge de 6 ans, m'est amené, il est évident que là, bon, il faut réparer, il faut reprendre les choses. Hein. Et il n'est pas question, et j'en arrive un petit peu à la position des psychologues que nous sommes, il n'est pas question un instant d'aller incriminer le parent, et deuxièmement, il serait presque criminel de le faire en présence de l'enfant. D'où la difficulté d'un parent qui viendrait, se plaindrait d'un comportement. On repère, si on le peut, on n'est pas magicien, la première fois, la deuxième séance éventuellement de quoi il s'agit. Et lorsqu'on pense avoir compris, comment le dire ? Il n'est pas évident, hein, c'est pas évident de le dire devant l'enfant. Alors il m'arrive très souvent de m'autoriser à demander à l'enfant d'aller sortir et d'aller dans la salle d'attente. On a plutôt l'habitude de voir l'enfant dans le cabinet du psy et les parents à l'extérieur, c'est fréquent. Mais il m'arrive des fois de demander à l'enfant de sortir. Les parents ne comprennent pas, je leur explique que décemment, je ne peux pas, devant l'enfant, montrer qu'il y a peut-être des rectifications, des conseils, un accompagnement, un apport à ajouter à l'éducation qu'ils donnent à leur enfant. Et voilà, et je crois qu'après avoir compris effectivement qu'il y a des choses à rectifier, ils me sont très souvent reconnaissants de ne pas l'avoir fait devant l'enfant. Parce que ça, je trouve que ça serait dramatique. Parce qu'en fin de compte, on en arriverait à ce que la situation se retourne devant l'enfant, et que ce que je vous dis à vous, là, aujourd'hui, c'est-à-dire l'enfant qui amène les parents chez le psy, soit énoncé, soit dit ou compris par l'enfant. Il faut quand même protéger cette fonction parentale. Il n'est pas question un instant de se substituer aux parents. Les deux ou trois fois où il m'est arrivé de le faire, c'est parce que c'était des situations dramatiques, avec, c'est exceptionnel, des mères paranoïaques qui se promenaient, je pense à une particulièrement, qui se promenaient avec un cutter et qui avaient pour intention, disait-elle, de tuer un jour ou l'autre les deux enfants qu'elle avait si le père s'avisait à les récupérer. C'est une maman dont j'ai dû signaler le comportement. Évidemment, du jour au lendemain, je ne peux plus suivre les enfants à partir du moment où j'ai levé le secret professionnel. Le juge pour enfants est intervenu, voilà. Je suis en train de parler de cas graves, là, mais en général, il s'agit évidemment de choses beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles. Donc, il n'est pas question un seul instant que l'enfant comprenne que les parents sont prononçons le terme, quelquefois défaillant. Voilà. Parfois il y a des erreurs, parfois il y a des mauvaises compréhensions, mais quelquefois ils sont véritablement défaillants. Pourquoi ? Parce que j'ai une expression que je n'irai pas répéter ailleurs, tellement elle est simple et simpliste. Certains parents ne sont pas complètement finis, ne sont pas terminés, sont eux-mêmes, représentent eux-mêmes des puzzles, et ça nous est arrivé de toute façon. Pour tous ceux qui sont parents, on n'a pas été finis complètement, on ne le sera jamais. Mais certains parents sont défaillants parce qu'il y a des failles. Il y a des failles, failles narcissiques. Eux-mêmes n'ont peut-être pas été aimés, eux-mêmes n'ont peut-être pas été conseillés, portés, accompagnés. Enfin bref, on doit accueillir les parents avec toutes les difficultés qu'ils ont. Et loin de nous l'idée d'aller dire qu'il faut attendre d'être complètement terminé pour avoir des enfants. Je veux dire, l'âge de 40 ans risque d'être dépassé depuis longtemps. Et je prends souvent le problème à l'envers. L'enfant nous amène à mieux devenir parents. Je veux dire, le nombre de fois, je pense à un cousin qui d'ailleurs m'avait dit « Tu as de la chance de faire l'étude de psycho », j'avais 20 ans à l'époque, il était dentiste. Il me disait « Je crois que je ne serai jamais d'enfant parce qu'il faudrait que je trouve d'abord un bon éducateur, que je pourrais aller les consulter très souvent avant de faire des enfants, on ne sait jamais. » Et souvent on a des patients, des patientes qui redoutent de mettre au monde un enfant, parce qu'elles n'ont pas l'assurance de pouvoir être une bonne mère ou un bon père lorsque c'est un homme. Voilà. C'est tout à fait louable d'abord de pouvoir l'exprimer, de pouvoir le dire. Et qui ne l'a jamais pensé ? On l'a tous pensé. Et ce que je dis en général, qui est un peu léger, mais qui s'avère de temps en temps vrai, c'est que l'enfant nous amène d'abord, un premier enfant nous transforme en tant qu'homme ou en tant que femme et nous rend parents, nous rend père, nous rend mère. Et il nous amène très souvent, par ses pleurs, ses cris, qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas, à adapter exactement le soin qu'il faut. Donc en fin de compte, l'enfant nous amène aussi à devenir parent, et si possible, un bon parent, en sachant qu'il y a toujours des erreurs. Également, il y a un autre souci que je perçois dans ce que j'appelais un peu les mentalités qui évoluent, qui sont mouvantes, c'est... l'anticipation, c'est-à-dire anticiper sur ce qui pourrait arriver. Évidemment qu'il va y avoir des bobos, évidemment qu'il va y avoir des pleurs, évidemment qu'il va y avoir des crises, des chutes, évidemment, et des erreurs de parents aussi, et des incompréhensions et des injustices dans l'éducation, évidemment. Mais de là à les anticiper, comme pour gommer d'avance, enfin donner un crédit aux parents, c'est-à-dire ils se donnent un crédit de pouvoir tout bien faire, tout réussir, le fameux trop dont je parlais tout à l'heure. Anticiper, et alors anticiper encore certaines erreurs, c'est une chose. Par exemple, en essayant de s'adjoindre les services d'un psy qu'on irait voir, et en se disant, au cas où, on ne sait jamais, j'ai quelqu'un que je connais, je pourrais l'amener au cas où. Ça donnerait à l'enfant l'idée qu'il pourrait faire des erreurs et qu'on aurait forcément besoin à ce moment-là d'un psy. Et ça induit un certain comportement. Et les enfants, bien qu'ils n'entendent pas tout, ne comprennent pas tout, sentent les choses. Et du coup, indiquent un peu trop à l'enfant, le parent indique un peu trop à l'enfant, en fin de compte, qu'il y a des erreurs possibles qui vont arriver. Donc cette anticipation, on la voit également se propager chez certains parents qui iraient jusqu'à, alors regardez jusqu'où ça peut aller, ce fameux moment si important, par exemple à l'adolescence, je parle des enfants mais je pourrais parler des adolescents aussi, un moment essentiel que nous avons tous traversé, ou du moins qui convient de traverser, et qui pourrait s'appeler la désidéalisation des parents. On désidéalise tous un jour ou l'autre nos parents. C'est ce qui permet d'ailleurs de devenir ensuite adulte et parent. Bon, on a parfois des difficultés de ce côté-là, à désidéaliser des parents. Et c'est une bonne chose de le faire, évidemment. Certains parents l'ont très bien compris, ont vécu eux-mêmes cette désidéalisation de leurs propres parents avec souffrance et se mettent déjà à anticiper sur l'avenir. et induisent l'enfant, indiquent même à l'enfant, oui, de toute façon, je sais qu'un jour ou l'autre, tu vas me prendre pour quelqu'un de ringard, pour, etc. Induisent l'enfant, et du coup, l'enfant se sent autorisé, puisque papa et maman l'ont déjà dit, l'ont formulé, et on incite en fin de compte les enfants à y aller un bon coup, mais de façon beaucoup trop précoce. Et on retrouve le fameux trop dont je parlais tout à l'heure. Et la précocité, on sait très bien, il suffit d'observer. Il y a une très grande précocité chez certains enfants, ou du moins, je dirais qu'elle est souvent induite par les parents. Exemple, je suis quelquefois sollicité pour des passations, je suis psychologue, donc je pratique aussi les tests, pour des passations de QI ou des évaluations de tests d'intelligence et projectifs en vue d'un passage anticipé au CP. Donc, des petits-enfants qui auraient 4 ans, 4 ans et demi, et à qui on voudrait faire sauter la dernière année de maternelle, ou en un processus scolaire normal entre le CP et le CM2. Voilà, on a entendu la maîtresse nous dire que, ou alors les amis nous ont dit que, ou alors je trouve que mon enfant est précoce, est-ce qu'on pourrait lui faire sauter de classe? Alors, pourquoi pas? Bien sûr, on peut toujours. Il suffit d'évaluer, de bien considérer la situation. Mais je le constate de plus en plus. Dans ma pratique et dans la pratique de collègues psy, on constate de plus en plus de demandes de la part des parents, rarement de la part des enfants. Les enfants le font lorsque toute la fratrie, 2-3 frères et sœurs, ont sauté des classes et se sentent presque obligés par identification pour appartenir à cette famille, pour être bien, pour être compris dans cette famille. Il va falloir moi aussi que j'y passe, que je saute une classe. Et là, ils le demanderaient éventuellement, presque par anticipation de ce que les parents vont demander, ce qui est un comble. Voilà. Donc, j'essaye de décrier justement ce processus-là qu'ont certains parents, qui consiste à devancer, en fin de compte, certains stades de développement de l'enfant. Et là, en l'occurrence, il s'agissait plutôt de l'adolescence. Alors, pourquoi anticiper sur le processus naturel que tout adolescent va normalement traverser, qui consiste à désidéaliser son parent? C'est pour contrôler et vérifier que ce soit bien fait. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de retour sur eux-mêmes. Que c'est une façon délicate de dire à l'enfant, je l'ai prévu au programme, pas de problème, tu peux me renvoyer ce que tu veux, je le sais d'avance. Où est l'étonnement? Où est l'effarement? Où est la crise? Où est le conflit? On a abrasé comme ça le conflit et on serait dans une idéalisation de famille où tout se passerait bien. Je peux comprendre mon enfant qui me renvoie la figure, que je ne suis pas ceci, que je ne suis pas cela, que je ne suis pas idéal. Donc. Et donc, on enlèverait même le charme de conflit. Enfin, je ne sais pas, quand je monte quelquefois à pied les étages pour entrer dans mon appartement, il m'arrive souvent d'entendre des conflits. Voilà, deux familles, frères et sœurs, parents-enfants, au-delà des portes qui sont fermées. Je me dis, ça vit. Voilà, ce sont des maisons avec lesquelles il y a de la vie. Parfois, c'est un peu fort, mais bon. Voilà. On voudrait presque éviter cela. Alors, on va s'adjoindre les services d'un psy. Et on se rend compte, pour certains, dans tous les cas, certains psychologues, qu'on nous amène la grande sœur, ensuite on va nous amener le frère qui est entre les deux, ensuite le tout petit, on deviendrait presque le médecin de famille, quoi. Alors, il n'est pas question de se substituer au médecin, bien évidemment. On n'est pas là pour tout l'aspect organique. On est là pour l'autre aspect, c'est-à-dire celui que le médecin ne va peut-être pas suffisamment contenir. Et il faut le dire, certains pédiatres ne connaissent pas tout ou, sur des sujets très particuliers, troubles du comportement alimentaire, l'énurésie, agitation. Il peut y avoir beaucoup de pédiatres qui ne connaissent pas bien le sujet. Et en fin de compte, c'est nous qui héritons de ces cas-là. Au décours d'une consultation qui se sera avérée nécessaire pour tel ou tel frère ou sœur, on va nous amener l'autre partie de la famille. Et souvent, j'entends, bon, pour le petit dernier, on attendra quelques années avant que je vous l'amène, d'emblée. Et le petit dernier est dans la salle d'attente, avec la porte ouverte qui est déjà ouverte, et on dit déjà la chose, alors que la salle d'attente est ouverte. Et le petit qui fait ses Lego, qui est en train de dessiner, entend. Qui est une prédiction. Prédiction, un jour ou l'autre, tu vas connaître M. Yffergrand, M. Martin, M. Dupont. Voilà. Et du coup, ça m'amène à penser que nous servons aujourd'hui, là, en 2003, depuis les années 2000, de prothèse familiale. Alors, c'est pas inutile, lorsqu'il y a un souci délicat pour lequel des parents vont appeler le psy parce qu'on en a déjà vu un, qu'on le connaît et qu'on sait très bien qu'il est réticent aux consultations sauvages. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On m'appelle quelquefois, vous connaissez Martin, vous vous souvenez de lui, il a maintenant tel âge, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu vous voir, son grand-père qu'il aimait beaucoup vient de décéder, on ne sait pas comment le lui annoncer. Question toute simple. J'aime bien ce genre c'est même pas une consultation, enfin c'est un avis, c'est un conseil au téléphone, et ça suffit largement. Et on va pas jeter la pierre à ses parents qui ne sauraient pas comment le dire à l'enfant, parce que souvent il y a des subtilités, il y a des choses que j'entends dans les séances avec les enfants que les parents ne connaissent pas, et en fin de compte on appelle le psy qui, ayant entendu des choses particulières, se demande comment le dire comme ci ou comme ça. Le psy saura, s'il se souvient du cas, présenter la chose en fonction de la sensibilité et de la subtilité de tel ou tel enfant. Ce genre de retour, d'aller-retour immédiat, j'aime bien ça, ça évite des consultations inutiles. Voilà. On va m'appeler parce que la maîtresse a trouvé que en ce moment, il est très agité. Voilà, c'est tout simple. On appelle. Depuis qu'Internet existe, et je pratique volontiers cette mise à distance de conseils avec les parents, qui seraient eux-mêmes câblés, je réponds aux questions. Ça évite des séances inutiles, ça évite des consultations qui ne servent à rien. Et j'en suis maintenant aussi, alors que je ne le faisais pas au départ, à demander quelquefois, quand je sens que la personne qui vient prendre un rendez-vous au téléphone a du temps, voilà, surtout quand ça m'est envoyé par un médecin qui a conseillé aux parents de venir me voir, je demande de quoi il s'agit en un mot. Et je le dis en un mot, de quoi s'agit-il? Ça permet de repérer de quoi il s'agit. Et parfois, si on a le temps nous-mêmes, si on est disponible dans l'écoute de ce parent qui prend un rendez-vous, il arrive des fois qu'on entende une hésitation de la part du parent qui voudrait pourquoi pas venir seul la première fois. J'entends souvent... j'aimerais bien venir vous voir la première fois, vous exposer la situation. Auparavant, lorsque j'étais débutant, j'étais très carré, très strict, et je rentrais dans un cadre bien plaqué qui me rassurait certainement. Et je disais non, venez avec l'enfant, il s'agit de lui. Lorsque j'entendais de quoi il s'agit, je me mordais les doigts, non. Il s'agissait du parent qui avait des doutes, tout simplement. On n'est pas dans les grandes pathologies. Il est bien évident que dans toute la population d'enfants et d'adultes, je reçois des adultes aussi, que je vois, il est bien évident, heureusement d'ailleurs, vous comprendrez quand je dis heureusement, que les trois quarts de ma clientèle sont des enfants qui ont besoin d'aller voir un psychologue. J'ai donné tout à l'heure deux, trois exemples de pathologies ou de troubles qui méritent d'aller voir un psychologue ou d'avoir un soutien. Mais je parle de ce quart de patient qui me vient et qui peut-être, s'il y a des psychologues dans la salle, commence à affluer de plus en plus. Je veux dire, de 2, 3, 4 comme ça dans le mois, on commence à en avoir beaucoup plus. Et c'est un débat qu'on pourrait presque avoir autour de ces mentalités qui dérivent, cette toute puissance des parents de vouloir tout contrôler et l'idée qu'ils ne pourraient pas être capables de contenir les difficultés de leur enfant. Pourquoi ? Pourquoi ils ne seraient pas capables, en fin de compte ? Est-ce qu'ils ont essayé, d'abord ? Moi, j'aime bien les parents qui me disent « on a tout essayé ». On a demandé au pédiatre, il faut quand même se référer aussi aux pédiatres qui savent quelquefois certaines choses et qui savent parler à l'enfant, parfois même en tête-à-tête, et qui font office de psy, et pourquoi pas? S'ils ont cette sensibilité, c'est très bien. On a demandé autour de nous, on nous a conseillé, on a vu la maîtresse qui connaît très bien notre enfant, on a demandé à la directrice, il a même été vu une fois par le psychologue de l'école, ça arrive, il y a des GAP, groupes d'aide pédagogique, il y a des CMP, centres médico-psychologiques, centres médico-psychopédagogiques, des enfants ont été vus quelquefois, et éventuellement même par un psychologue, une psychologue avant, et on ne sait pas comment faire. Alors voilà, j'aime bien ce genre de situation. Enfin, je dis j'aime bien. Je préférerais qu'on ait tout tenté avant et qu'on m'ait montré à quel point les parents ont tenté de contenir le symptôme. Et seulement à ce moment-là, on va voir le psychologue. Presque comme un ultime recours, pourquoi pas? Après tout, ça serait une façon très honorable de gratifier ses parents de possibilités de résoudre un conflit, de possibilité d'avoir les capacités à supporter. Or, il arrive très souvent que dans les familles, les deux parents travaillent. Il arrive souvent aussi que certaines familles soient décomposées, recomposées, avec interdiction pour le conjoint qui est venu en deuxième temps d'intervenir sur certaines questions délicates concernant l'enfant, donc la maman ou le père, hein, qui est le parent de cet enfant, se sent un petit peu isolé, seul, parfois même chargé d'un conflit avec l'ex-conjoint. Bref, il peut arriver qu'on se sente terriblement seul. Ben, je trouve que nous, psy, avons pour mission aussi de regonfler, d'insuffler cette capacité qu'ont les parents à relancer un petit peu la machine éducative au sein de leur domicile. Je n'oublie pas qu'il y a des parents qui arrivent en phase, je ne vais pas dire délabrement, ça va attrister le débat, mais qui sont eux-mêmes dépressifs, au chômage, en train de se séparer, n'en pouvant plus, et qui arrivent du coup avec un cœur énorme, prêt à déverser pas seulement des torrents de pleurs, mais leur histoire. Et je reviens, je conclue, je ne sais pas quelle heure est-il là. D'accord. Je voudrais laisser au moins 10 minutes pour un échange. On en arrive à recevoir parfois des parents qui n'attendaient que ça, c'est-à-dire une difficulté à supporter la vie. L'enfant le sent très bien, se met à exagérer les caprices, les conflits, fait des siennes à sa façon, et le nombre d'enfants qui tentent bon an, mal an, parce qu'évidemment, ils ne savent pas que les psychologues existent. Tous ne savent pas que les psychologues existent. Ils ne savent pas comment interpeller le parent. Et ils savent très bien, par contre, ils ont senti que si on touche un peu trop à papa ou à maman qui est en train de craquer, ça va déborder. Et ce sentiment-là est très bien perçu par les enfants. Ils ont un sens inouï de la capacité des parents à contenir ou pas leurs émotions, leurs difficultés. Et on les ménage. Les enfants les ménagent. Ou justement se met à les déranger. Mais pas eux directement. Alors bien sûr, il peut y avoir des crises familiales entre parents et enfants. Ils vont aller déclarer ce malaise de papa ou de maman ailleurs. Voilà. Alors, il y a une convocation. Madame, monsieur, on aimerait bien vous voir. Il y a le petit Romain qui est intenable en ce moment. On n'en peut plus. On ne sait pas ce que ça veut dire. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire, etc. Les parents se regardent quand ce n'est pas le parent tout seul, hein, qui est lui-même désemparé, ne sait pas quoi faire. Et on propose d'aller voir un psychologue. Le psychologue reçoit, écoute. Un mot de l'enfant peut déclencher tout de suite ce qui ne va pas chez le parent. Voilà. Et là, on a eu, du coup, je referme un petit peu la boucle en disant, c'est en fin de compte l'enfant qui va amener le parent à se soigner. Et il n'est pas rare du tout de voir dans ces 25%, enfin je donne un chiffre comme ça, hein, c'est intuitif, dans ces 25%, il n'est pas rare du tout de voir un parent venir avec son enfant, m'a montré son enfant, en fin de compte, l'a présenté comme un paravent pour venir tester la personne du psy qui est en face. Savoir un peu si on peut lui faire confiance. Et c'est pas plus mal, en fin de compte, on peut pas aller se livrer comme ça à n'importe qui. On a un nom, d'accord, c'est donné par un médecin, c'est donné par une amie, c'est donné par un ancien patient qui dit « je connais un tel qui est plutôt bien, tu devrais aller le voir », mais ce n'est pas suffisant. Et alors on met souvent l'enfant par avant. L'enfant arrive, on teste du coup la capacité du psy à entendre nos propres souffrances d'adultes, et ensuite, on se livrera ou pas. Il arrive quelquefois même que ce soit le parent qui demande à l'enfant d'aller dans la salle d'attente. C'est arrivé, je tolère tout à fait que ce soit possible. Il y a peut-être des secrets à dire d'abord, sans que l'enfant ne l'entende. Bon, l'enfant s'éclipse, va jouer, va je ne sais quoi dans la salle d'attente, et le parent se met à parler. Et là, il y a quelque chose de l'ordre d'une écoute particulière qui va peut-être déboucher sur un autre entretien, toujours dans l'intimité, c'est-à-dire le patient et le psy. Et on est passé comme ça tout doucement du psychologue au psychanalyste que je suis. J'ai les deux casquettes et beaucoup de psychologues sont aussi psychanalystes. Et du coup, on a là une tournure de la situation qui fait qu'on va soutenir le parent d'abord. La fonction de parent, Plus tard, il viendra au cours des séances, une autre question qui est, et moi dans tout ça, je parle pour le patient, c'est-à-dire l'individu lui-même. Avant d'être parent, il a été un individu. Et ça, c'est très important. Donc on a comme ça une sorte de bascule, je disais, dans les mentalités, dans l'histoire même du courant psychanalytique, où on amène l'enfant, et c'est le parent qui se pose, ou qui vient se déposer, quoi. Voilà, j'ai dû oublier des éléments que j'ai notés. Peut-être que dans l'échange, je pourrai apporter d'autres idées si vous posez des questions.
Bonsoir.
Bonsoir.
En même temps, je pense qu'actuellement, il y a une grande tendance qui est qu'on part du principe que si les parents vont bien, l'enfant va bien. Donc je ne suis pas très étonnée que lors des consultations pour un enfant, très vite on s'oriente vers le parent, et c'est une tendance qui à mon avis se renforce de plus en plus actuellement, et même qui culpabilise encore un peu davantage les parents, à savoir que même quand un enfant est agité, qu'il ne va pas bien, qu'il y a des symptômes un peu dérangeants, on a tendance tout de suite à incomper même très facilement la mère en disant « mais quand la mère ira bien, l'enfant ira bien ». Et donc ça fait reposer sur la mère énormément de pression, ouais. Parce que la mère, elle a un problème, elle ne peut pas forcément aller bien par un coup d'énergie. Et ça oblige aussi donc la mère forcément, ou le père, hein, enfin selon, à engager aussi une thérapie personnelle, une psychanalyse personnelle, parce que sur elle repose la responsabilité de la sérénité de son enfant et du fait qu'il doit absolument maintenant se sentir en sécurité, quoi qu'il arrive et quoi qu'il interfère dans la vie de la mère, du père ou de la famille. Donc ça, je voudrais revenir. Et je voudrais revenir aussi sur le fait qu'il y a de plus en plus de familles monoparentales, et vous n'y avez pas trop fait allusion, et il y a de moins en moins, je dirais, de solidarité familiale. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de grands-parents qui ne s'investissent pas forcément dans leur rôle de grands-parents. Il y a des papas absents. Et donc, c'est vrai que souvent, beaucoup de mères seules se retrouvent vraiment seules face à l'éducation de leur enfant, avec beaucoup de symptômes, avec beaucoup de, même de, d'agressivité, des fois à gérer. Et le psy, c'est leur seule solution pour continuer à éduquer l'enfant et à ne pas craquer. Et je crois qu'il y a aussi un phénomène de société qui fait qu'actuellement, on a recours au psy parce que les parents sont très seuls, de plus en plus. Et je crois qu'il faut le souligner. Et troisième point, excusez-moi, je voulais dire aussi que il y a une tendance maintenant à l'enfant roi, qui fait que l'enfant roi, en fait, même à 5 ans, même à 3 ans, a tendance à ne plus supporter l'autorité, notamment même dans les familles monoparentales. Il y a une escalade de rébellion. L'enfant peut s'auto-être violent avec lui-même, donc la mère peut avoir peur. Et automatiquement, à partir de là, il est beaucoup plus difficile d'imposer son autorité dans ce contexte parce qu'on a peur d'une escalade de violence avec l'enfant. Parce qu'un enfant qui, par rébellion, se tape la tête par terre ou qui lève la main sur sa mère, même à 5 ans, vous êtes tenté de lui retourner les plaques, il va aussi être tenté, lui, de vous refrapper, et après, vous faites quoi? Vous en faites quoi? Et donc, forcément, il y a beaucoup de parents qui, pour éviter cette escalade de violence, se contiennent et ont un problème après avec l'autorité de l'enfant, de leur autorité par rapport à l'enfant. Mmh. Et ce que je viens de dire, en plus, parle de soi, l'autorité aussi de l'enfant. Mmh. Parce que l'enfant comprend que la mère ne veut pas en arriver là et se sert de ça pour pousser encore plus loin les limites. Donc ces trois cas de figure me font dire que le psy est un luxe pour rétablir une cohérence dans l'éducation et pour surtout que le parent ne perde pas confiance. Parce que le parent est très seul, je trouve, actuellement. Surtout le parent monoparental.
Vous avez tout à fait raison de reprendre ça. C'est une tendance qu'on voit se dessiner depuis très longtemps. Si je n'en ai pas parlé suffisamment, c'était pour garder un petit peu de place pour ce que j'avais à dire aussi, mais vous avez raison, il y a énormément de mères, vous avez raison de le dessiner comme ça, avec la démission de certains pères, de mères qui, se sentant terriblement seules, viennent en fin de compte poser quelque chose chez un psy qui va contenir des choses qui ne peuvent pas être dites à une amie, à des parents, quelquefois, d'un certain échec, peut-être de la relation conjugale, hein. C'est-à-dire qu'il va leur être renvoyé par les parents, quelquefois. Donc elles sont coincées entre ce qu'elles estiment être un échec et cette culpabilité qu'elles vivent peut être très bien aussi perçue par l'enfant, qui, de façon, comprenez-moi, je le dis avec beaucoup de guillemets, de façon sadique, mais naturellement sadique. Il y a beaucoup d'enfants qui développent un certain sadisme. Logiquement, il est dirigé vers un frère, une sœur qui viennent de naître, quand ils sont tout petits, éventuellement un animal. Hein. On a vu beaucoup d'animaux maltraités par les enfants. Ce sadisme existe. La pulsion agressive chez l'enfant naît très tôt. Et souvent, elle est retournée contre les parents. Vous avez raison de parler de l'autorité qui ne peut pas être facilement tenable, supportée. Supportée au sens supporter. Par des parents, une mère seule qui doit et travailler à l'extérieur et travailler à l'intérieur. Et je dis souvent aux enfants, est-ce que ta maman travaille à l'extérieur ou à l'intérieur, pour bien distinguer les deux vies, on va dire, qui s'imposent parfois dans ce genre de situation. Mais vous avez raison, c'est difficile. Alors, en plus, elle est taxée d'aller voir en plus un psy pour pouvoir être aidée, accompagnée, supportée. C'est vrai, c'est vrai. Au psy d'être suffisamment honnête et de renouer, enfin de faire renouer un petit peu cette patiente avec tout le réseau qu'elle aura autour d'elle. Est-ce qu'elle s'occupe d'elle? Est-ce qu'elle a le temps d'aller, je ne sais pas, d'avoir un hobby, d'avoir une association pas très loin de chez elle, de renouer avec les parents? Peut-être est-il temps justement de traiter les cicatrices de sa vie. Et souvent, j'ai en tête de recevoir une mère telle que vous le décrivez, là, qui va peut-être se servir justement de la plainte de son enfant, ou du symptôme de son enfant, pour en faire un tremplin pour plus tard. C'est-à-dire de stopper avec le marasme et essayer de se donner une autre envergure. Voilà. Sinon, on reste dans la plainte et la complainte. Et on ne fait qu'accompagner une plainte. C'est déjà pas mal, faut-il encore savoir le faire. Mais ça n'est pas suffisant. Donc, essayer de redonner du punch, de redynamiser, de recharger les batteries de quelqu'un comme ça, c'est vrai que ça fait partie du travail de psychologue. Là, oui. Et ce que je dis en général, c'est à l'enfant, parce qu'il faut dire quelque chose à l'enfant. Ta maman ne peut pas supporter en ce moment ton agitation. Elle ne peut pas. Elle va craquer. N'en fais pas trop. Aide-la. Aide-la simplement en évitant de trop bouger. Si tu as quelque chose à dire, redis-le-moi autrement, viens me voir, envoie-moi un dessin. Alors souvent les enfants m'envoient des dessins pour me dire les choses, hein. Je parle des tout petits avant 6 ans. J'incite à revenir lorsqu'il le faut dans ces cas-là, pour justement désengorger un petit peu toute l'agressivité, la tension de l'enfant, de façon à soulager un petit peu la mère qui, elle, va apprendre à s'occuper d'elle, pas forcément chez un psy. Voilà.
Bonjour.
Bonsoir.
Je suis médecin, je suis du cabinet. Il y a de plus en plus de demandes de parents, d'adresses, de psychologues, des évaluations de QI, donc en prétextant que l'enfant est surdoué. Je voulais savoir au niveau de votre expérience, comment vous arrivez à vous positionner, ce qui est une demande forte croissance.
Alors, elle est en forte croissance et je le dis d'emblée, j'ai énormément réduit cette pratique-là. Justement pour contrer cet excès. Non pas que je n'ai pas les capacités, au contraire, j'étais formé pour, j'ai même fait un DU, un diplôme universitaire spécifique pour toutes ces questions de passation de tests, aussi bien tests d'intelligence, tests de performance et tests projectifs. Je m'interdis, dans tous les cas, on parle de l'aspect technique, je m'interdis de ne faire passer à un enfant que le test d'intelligence. Je fais toujours passer des tests projectifs. En deux mots, pour ceux qui ne sauraient pas ce dont il s'agit. Bon, les tests d'intelligence, on voit à peu près hein, ce que c'est, même si on ne les connaît pas tous dans le détail. Il y a énormément de parcelles dans l'intelligence. Elles sont toutes plus ou moins réunies dans le même personnage ou la même tête. On essaie de voir si toutes ces parcelles, la mémoire, la compréhension, l'information générale, composer un puzzle, savoir se mouvoir dans un labyrinthe, décoder, etc. Toutes ces petites parcelles de l'intelligence sont réunies et, en parenthèse, je ne donne jamais le QI. Jamais, jamais. Jamais. Même pas à une institution, même pas, encore moins à l'école. Alors là, vraiment, encore moins à l'école. Et au contraire, je m'efforce. Chaque fois que je ne donne pas quelque chose, je donne autre chose. Ce dont je m'efforce, c'est d'essayer de montrer comment l'intelligence est composée et comment l'enfant s'en sert. On peut très bien avoir une superbe voiture et ne pas savoir s'en servir. On peut très bien avoir une fortune, et tant mieux, et ne pas savoir s'en servir. On peut dilapider une intelligence. Donc le but étant de comprendre comment elle est faite, cette intelligence de l'enfant, au moment dit, et de savoir comment est-ce qu'il s'en sert. Et de tenter de faire une prédiction sur 6 mois, 1 an, pour savoir ce qui va en être pendant l'année supposée sauter, enfin je ne sais pas comment le dire, mais la classe dans laquelle il va se trouver devra nous dire si on a eu raison ou pas de lui faire sauter une classe. Petite statistique, lorsqu'il m'arrive encore d'accepter de faire passer ce genre de test, je ne le fais, enfin je veux dire, je les accorde comme ça de tête, c'est 1 sur 10. Pour vous dire à quel point je refuse systématiquement d'autoriser, du moins c'est mon avis, on vient voir un psychologue à l'extérieur, sachez aussi que les parents sont en droit de demander à l'école de faire sauter une classe. Hein. Alors je ne sais pas si l'école l'accepte ou pas, mais ils sont en droit de le demander. Je continue, simplement pour dire qu'il m'est très précieux d'évaluer d'abord par un entretien. Une deuxième semaine arrive, la passation des tests. Et dans la passation, il peut y avoir plusieurs passations. 2-3 séances de passation. Test d'intelligence, souvent les enfants sont lents, il faut leur laisser le temps. Et tests projectifs. Et dans ces tests projectifs, j'en venais à cela, les tests projectifs sont des outils, comment dire, pour moi c'est comme un scalpel qu'on donnerait à un petit enfant. Les scalpels sont à utiliser par des chirurgiens. Un test projectif rentre directement et presque directement dans l'inconscient de l'enfant. Et on va repérer tout de suite l'organisation, non pas de l'intelligence, mais de la pensée, des affects, des sentiments et des mécanismes de défense. Alors ça se présente sous la forme de planches, on appelle ça une planche, c'est une page de carton sur laquelle il y a une photo, un dessin, la représentation de quelque chose, et on demande à l'enfant de s'exprimer sur ce qu'il voit. En général, elles sont au nombre de 10. Je fais passer 2 tests projectifs pour les corréler et les vérifier. C'est au nombre de 10. Et dans ces 10 planches qu'on va faire passer, on est supposé avoir traversé tout ce que l'enfant va traverser. Angoisse de castration, problème de jalousie, comment il supporte l'autorité, ces questions qui se posent face à des positions essentielles comme la vie, la mort... D'où je viens, est-ce que papa est papa, est-ce que maman est maman, toutes ces questions des origines et autres sont collectées dans une dizaine de planches, 2 fois, parce qu'il y a 2 tests projectifs très différents les uns des autres, l'un de l'autre. Ces tests projectifs me donnent une idée de l'aspect affectif de l'enfant. J'essaye de m'enquérir aussi de l'aspect social de l'enfant, savoir s'il fait du sport, savoir s'il a des amis, s'il va chez un petit copain dormir le samedi soir, s'il aime faire la fête, s'il sourit, si, enfin bref, le sommeil, l'alimentation, toutes ces choses-là me sont précieuses. Et une fois que j'ai collecté tout cela au bout de quoi, 3-4 séances de travail, je me réserve 1-2-3 semaines pour réfléchir à la situation et renvoyer un dossier aux parents, un dossier, un compte-rendu du moins, que j'adresse aussi aux médecins, que j'adresse à l'école lorsque l'école est partie prenante. Voilà. Et on va dire que je mets... je donne quand même 2 bilans différents aux parents. J'explique les choses de façon très simple. Comme je vous parle là aujourd'hui, je parle en français. Et aux professionnels, des petites choses un peu plus poussées et plus techniques. Et ensuite, il y a encore un autre entretien de restitution des résultats. C'est-à-dire, ils les ont reçus. Je leur donne un rendez-vous une semaine ou 2 après. Je leur demande de souligner tout ce qu'ils ont compris ou pas compris, enfin surtout ce qu'ils n'ont pas compris, toutes les questions qu'ils ont à me poser. Et là, j'accorde encore un dernier entretien que j'appelle de restitution, pendant lequel on va discuter. Et là, je peux aborder certaines questions délicates en demandant, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu trop? Il a déjà beaucoup de sport, beaucoup d'activités. On lui en demande un peu trop. Déjà que le sommeil est un peu chancelant et qu'il est toujours avec son doudou à la main, qu'il suce son pouce dès qu'il le peut, il a une fatigabilité. Sur le plan social, il est un petit peu réfréné, il ne va pas tout de suite spontanément vers les copains. On peut peut-être le laisser souffler encore cette année. Vous verrez l'année prochaine. Voilà, et on a gagné une année. Voilà. Et très souvent, avec une certaine délicatesse, on y parvient. Alors, je refuse de plus en plus parce que ces demandes sont parasites. Enfin, elles viennent d'une tante, d'un oncle, d'un ami qui dit « mais ton fils est extraordinaire ». Paf, ça fait tout de suite réveiller la fibre narcissique des parents et on y va. Il faut dire aussi que quand on travaille comme moi en libéral, ces passations sont très chères. Je donnerai pas de prix, mais je n'ai pas augmenté mes prix depuis 20 ans que je travaille parce que c'est très cher. Tout ce temps-là, 5 séances, imaginez, 4 séances quelquefois lorsque ça va très vite, c'est très long. C'est très long comme travail, c'est fastidieux. Et forcément, ça coûte. Voilà. Et du coup, ça rebute. Je me sers hypocritement aussi du prix en disant, allez donc voir au CMP du coin, allez donc voir au CIO centre d'information et d'orientation si on ne peut pas les lui faire passer. Je sais très bien d'avance, c'est pour ça que je dis que c'est hypocrite, qu'on ne peut pas, parce qu'on est débordé, parce qu'il n'y a pas suffisamment de psychologues dans les CMP. Voilà. Je sais qu'on ne va pas... Alors, j'attends que ces parents soient rebutés pour laisser passer, quoi, une année, deux années, puis j'espère... voilà. Donc voilà, je réponds.
Ces parents sont de milieux quand même socioculturels relativement élevés. On voit difficilement des parents de milieux défavorisés demander que leur enfant...
C'est vrai, mais j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Je vais vous répondre en 30 secondes, n'ayez crainte. Hein. Je donne un exemple concret. Dans la rue dans laquelle j'habite, une maman très simple, mais très sympathique, que je saluais très souvent, est venue me voir en me disant je voudrais que vous fassiez passer un bilan à ma fille. Pour lui faire sauter une classe. Elle venait, milieu très modeste, femme qui s'exprimait néanmoins très bien, une petite fille mignonne, elle venait pour une passation de test en vue d'insister auprès de l'école, maîtresse et directrice, qui ne voulait pas. Pourquoi ? Parce que sa fille avait un véritable problème à l'œil. On savait très bien, vu le diagnostic, qu'elle allait se faire opérer d'un œil, que cette opération durerait longtemps, qu'elle ne pourrait pas suivre la scolarité et que du coup, elle allait rater une année. Et c'était évident. Et elle a été opérée, effectivement, on le savait. Donc, par anticipation de cette année-là, on lui fait gagner une année pour ne pas qu'elle en perde. C'est une façon de nier le handicap. Et j'ai refusé. Elle a quand même fait passer sa fille. Bon, voilà. Apparemment, non. Mais je serai disponible. Hein. On va s'arrêter là, mais je serai disponible. On peut en parler. Faites-le, enfin, on peut le faire à l'extérieur, peut-être qu'il y a des. On nous impose des contraintes horaires. Merci.